Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage ce soir, la trêve en Ukraine, le nouveau poker menteur de Poutine à la veille de son nouvel entretien téléphonique avec Donald Trump. C'est lui qui a désormais les cartes en main. Fort des concessions que lui a déjà préaccordé le président américain, Vladimir Poutine aborde ses négociations en position de force. Et le maître du Kremlin entend bien prendre son temps. Son « oui mais » à la proposition de trêve américano-ukrainienne indique clairement sa volonté de ne pas se laisser imposer des concessions. Dans cette partie de poker diplomatique, de quelles cartes dispose Donald Trump pour tenter de faire plier son homologue russe? Et combien de temps encore Vladimir Poutine pourra-t-il user de sa stratégie de manœuvre dilatoire? On fait le point ce soir avec nos invités. À mes côtés dans ce studio, Christine Dugoin-Clément, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste en géopolitique, chercheur pour la chaire risque de l'IAE, Paris-Sorbonne, et le centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, auteur également de Géopolitique de l'ingérence russe, la stratégie du chaos, paru aux éditions PUF, aux presses universitaires de France. Également avec nous, Lucas Aubin, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche à l'IRIS, docteur en études slaves et auteur de Géopolitique de la Russie, paru aux éditions La Découverte. Bienvenue à vous deux sur RFI. Et pour commencer, à quelques heures de ce nouvel entretien entre les présidents américains et russes, est-ce qu'on peut noter, Christine Dugoin-Clément, cette dissonance entre Donald Trump, qui souhaite aller vite, voire même très vite, et un Vladimir Poutine bien décidé à prendre son temps?
Tout dépend de ce qui sera fait ensuite. On a un Donald Trump qui est dans une approche qui est extrêmement transactionnelle, à laquelle il faut ajouter, je pense, deux couches. Une première qui est relative à ses besoins de briller sur sa scène nationale. Donc il doit lui-même gérer sa politique intérieure. Vous ajoutez une petite pincée égotique là-dessus et vous y êtes. Et on va avoir au-dessus... encore, si vous voulez, de cette approche-là, les enjeux que l'on aura pour le président Poutine. Donc là encore, si vous voulez, à voir ce que l'on ressort, puisque finalement, ce qui était annoncé par Donald Trump, le nouveau locataire de la Maison-Blanche, c'est une solution extrêmement rapide. Vous remarquerez qu'il ne s'est jamais tellement étendu sur ce que seraient des garanties de sécurité, faisant très probablement bien volontiers une confusion entre un cessez-le-feu sans garantie de sécurité et une paix durable. Là-dessus, on essaye d'aller sur un espèce de flou qui n'a absolument rien d'artistique et qui aurait au contraire beaucoup de choses catastrophiques. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que ça serait exactement tout l'intérêt d'un président Poutine d'avoir un mauvais cessez-le-feu, c'est-à-dire sans garantie de sécurité, voire non stabilisé, puisqu'on arriverait à un conflit qu'on appelle abusivement souvent gelé, puisque c'est un gel sur qui voit encore beaucoup de blessés et beaucoup de morts en règle générale, mais parce qu'il y a un intérêt. Vous me laissez peut-être deux petites secondes pour essayer de décliner ça. Une paix totale assurée avec des garanties de sécurité n'arrangerait pas forcément le Kremlin. Pour trois raisons majeures.
C'est pourtant ce qu'il réclame, officiellement.
Ah ben officiellement, oui. Mais enfin officiellement, je vous rappelle qu'il a tout de même été obligé d'envahir l'Ukraine et que finalement les traités qu'il a signés, par exemple la charte, le premier article de la charte de l'ONU était un vilain souvenir. Donc si vous voulez, entre ce qui est déclaré et puis ce qui est réalisé, j'ai un côté un petit peu pragmatique, je regarde le tangible. Si vous voulez, là on a quand même plusieurs choses. Le Kremlin a demandé à son économie de faire un pivot extrêmement important il y a trois ans pour soutenir l'effort de guerre. Ça a secoué très fortement ce pilier de l'exercice du pouvoir. Si demain, on avait une situation de paix, ou en tout cas un cessez-le-feu solide avec des garanties de sécurité, eh bien toute votre économie, elle doit faire un pivot dans l'autre sens. Donc vous faites un deuxième choc. Le deuxième point, c'est que vous devriez récupérer forcément les troupes qui sont sur le terrain. Vous êtes dans une situation de pied, vous repliez. Vous allez récupérer un nombre d'hommes qui souffrent probablement de syndrome de choc post-traumatique à des degrés plus ou moins divers. Vous allez récupérer des gens qui ont l'habitude du maniement des armes. Et encore une deuxième catégorie qui sont ceux qui auront été probablement assez maltraités par la hiérarchie militaire. Donc potentiellement, vous pouvez alimenter un foyer de contestation plus des troubles sociaux. Et puis le dernier point, c'est que les oblasts qui ont été annexés et qui ne sont d'ailleurs pas tous sous le contrôle de Vladimir Poutine, alors qu'il en demande la restitution, pas totalement, je pense notamment à Kherson et Zaporijja, sont à l'heure actuelle sous un système de contrôle militaire. Si demain on est sur un cessez-le-feu solide, qui pourraient être les prémices d'une paix, eh bien on change de gouvernance. On est sur une gouvernance civile. On appuie moins sur la tête des Ukrainiens et vous pouvez avoir beaucoup plus de protestations.
On voit que Poutine veut prendre son temps. Autre certitude, Lucas Aubin, c'est que contrairement à l'Ukraine, hein, qui a dû plier devant la stratégie de la force américaine, elle n'a pas tellement eu le choix, la Russie, elle, ne se fera pas imposer les conditions de la trêve.
Non, clairement pas. Et c'est ce qu'on voit depuis le début, finalement. C'est Vladimir Poutine, le maître des horloges. Il affectionne beaucoup ce rôle. Il l'a encore aujourd'hui. On a vu sa réponse, justement, à Donald Trump. Elle était assez floue. Volontairement, quand on est Vladimir Poutine, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, hein, comme on dit, évidemment. L'idée, je crois que pour lui, c'est de faire durer un peu cette situation. On le sait, il a un avantage militaire actuellement sur le terrain, au prix évidemment de beaucoup d'hommes, bien entendu. Néanmoins, il a un avantage. Je crois qu'il cherche en fait à mettre la pression également sur Volodymyr Zelensky, puisqu'en fait, il faut le rappeler, je crois que c'est vraiment un élément majeur, c'est que ses objectifs originels de la guerre sont toujours sur le devant de la scène, ils sont répétés dans les médias russes et ses objectifs originels, c'est lesquels ? C'est la dénazification de l'Ukraine qui suppose un départ en fait de Volodymyr Zelensky et de son élite potentiellement et la démilitarisation du pays, évidemment, c'est sa neutralité. Du coup, donc, c'est l'exclusion de l'Ukraine de l'OTAN, évidemment.
C'est des propositions maximalistes.
C'est ces propositions
Trump maximalistes. Ne peut pas aller aussi loin. Quels sont les leviers à votre sens dont dispose le président américain pour essayer de cadrer un peu cette négociation face à ces demandes russes.
C'est assez difficile à dire, étant donné que Donald Trump s'est montré pour le moment très conciliant vis-à-vis du discours russe. Il a été justement, il a qualifié Volodymyr Zelensky de dictateur. On sait que ses conseillers ont rencontré des membres de l'opposition ukrainienne, carrément. Donc on est vraiment dans une forme d'ingérence à la russe, j'allais dire. Et il y a beaucoup de parallèles en fait, à faire, évidemment, entre Donald Trump et Vladimir Poutine aujourd'hui. Donc je crois qu'on va être sur une négociation entre Trump et Poutine qui va s'apparenter à une négociation un peu, j'allais dire, mafieuse entre deux personnalités fortes, caractère trempé, qui vont négocier les terres rares ukrainiennes, qui vont négocier des outils diplomatiques ou non. Donc est-ce que va être sanctuarisé le fait...
Ils vont partager le butin ?
Ça ressemble à ça. En tout cas, pour le moment, ça ressemble à ça. Et ce qui est très étonnant, c'est ce qu'on disait hors antenne juste avant, en fait, ce qui est très étonnant, c'est que jusqu'à présent, ces tractations, on ne les voyait pas, on pouvait les supposer, il y avait beaucoup de discours qu'on jugeait parfois complotistes, parfois non, à tort ou à raison. En tout cas, actuellement, on a affaire à un partage du territoire ukrainien, un peu comme à l'époque de la conférence de Yalta en 1945.
Christine Dugoin-Clément, à quoi pense Donald Trump quand il a évoqué des partages de certains avoirs, dont des terres et des usines de production d'énergie, résultat des négociations entre diplomates russes et américains de ces derniers jours ? À quoi il pense ?
Alors là, il faut peut-être revenir un tout petit peu en arrière, mais il y a quelque chose qui est intéressant. Vous avez évoqué les terres rares, avec notamment l'accord et la proposition d'accord sur ces terres rares. Ce qui est notable, c'est que côté Russie, quand ces accords ont été mis sur la table, eh bien, on a eu énormément de mouvements pour essayer de dire que la Russie pouvait faire beaucoup mieux, pouvait proposer autant à moins cher, et que, attention, ils estimeraient que cet accord n'était pas forcément légal puisque certaines terres étaient dans le Donbass revendiquées par la Russie mais dont l'annexion n'est évidemment pas reconnue notamment par les Européens. Et puis le dernier point, c'est que si vous faites un accord quel qu'il soit avec l'Ukraine, dans une certaine mesure, vous reconnaissez la souveraineté. Vous faites un accord avec un État, ce qui n'arrangeait pas forcément la Russie qui, depuis le début, nie toute existence et toute réalité à l'Ukraine en tant que nation. Donc on a, si vous voulez, tout cet enjeu-là au niveau des terres, au niveau de tout ce qui permettrait d'arriver à avoir des productions, notamment en termes de nouvelles technologies, hein, puisque quand on va parler de ces terres rares, alors appelées abusivement rares d'ailleurs, c'est exactement ce que l'on va pouvoir retrouver là. Donc on a toute cette approche de négociation qui est importante. Au-delà de cela, dans la relation entre les présidents Poutine et Trump, alors on a effectivement bien vu la reprise, y compris de narratifs qui sont poussés par le Kremlin depuis maintenant plusieurs années. mais on a aussi une relation qui permet d'avoir quelques doutes quant à l'autonomie des aides, comme diraient des cavaliers, du président Trump, puisqu'il a fait l'objet d'une attention toute particulière des services de renseignement russes depuis maintenant plusieurs décennies, et que, au-delà d'une admiration qu'on pourrait qualifier d'affective, je pense que l'exercice du pouvoir de manière rugueuse, la centralisation des actifs économiques autour du pouvoir, et c'est ce que l'on voit, c'est le deuxième pilier d'exercice du pouvoir russe, eh bien, sont des choses qui parlent, qui sont tout à fait parlantes pour le président Trump. Et puis, il y a un dernier point, c'est que Koursk, qui avait été donc cette poussée ukrainienne, et là encore, on a eu des voix assez dissonantes, ou tout du moins que les images satellites mettaient à mal, quand la Russie a dit qu'il y avait un encerclement des forces ukrainiennes alors qu'on est sur un repli, notamment poussé par Washington. Et là, vous perdez aussi un élément de négociation, même si l'idée d'aller et de pousser sur Koursk, la première idée ukrainienne n'était pas forcément d'être sur de la négociation, mais là, de facto, vous déliez encore un peu plus les mains d'un président Poutine par rapport à sa population, puisque finalement, il règle, dans une certaine mesure, un problème qui est à ses frontières, qui est au bord de ses frontières, et ça lui permet, pour revenir à ses objectifs de guerre, de ne pas finalement modifier ses objectifs de guerre. On n'est pas sur une paix, donc on n'a pas besoin d'eux, et au cas particulier, on continuera à pousser à l'occasion dans cet objectif, y compris sur un temps long.
Lucas Aubin, c'est pour ça que Vladimir Poutine semble préférer pour l'heure l'action militaire. L'idée, c'est de gagner un maximum, en tout cas de faire un maximum de gains territoriaux avant toute possibilité de trêve. On va rester dans cette optique ?
Alors, ça dépend sous quelle forme. Effectivement, ça pourrait être tout à fait sous la forme d'un cessez-le-feu bancal, mais avec finalement des bombardements ou des assauts qui continuent, ou ça pourrait continuer comme c'est le cas actuellement. Je crois que la stratégie effectivement de Vladimir Poutine, c'est de profiter de cet avantage relatif qu'il a sur le terrain pour grignoter des territoires et dans un premier temps pouvoir véritablement annexer les quatre régions de l'est de l'Ukraine qu'il revendique.
Et pourquoi entièrement, pas, vous voulez dire.
Entièrement, oui. Reprendre évidemment Koursk, et potentiellement aller encore plus loin d'un point de vue géopolitique, géostratégique. Dans un monde parfait, il aimerait bien, je pense, obtenir jusqu'à Odessa pour rallier la Moldavie. Alors on en est très loin, et bon courage à celui qui cherchera aujourd'hui à prendre Odessa. Néanmoins, on peut tout à fait l'imaginer à terme, notamment parce que l'armée ukrainienne est en guerre total depuis 3 ans, depuis 2014 si on va plus loin par rapport à l'annexion de la Crimée évidemment, elle est en difficulté. Le régime de Kiev, Volodymyr Zelensky, est lui aussi en difficulté, sans rajouter non plus. Il a quand même une courbe de popularité qui reste positive. Je crois qu'on parle de 56% d'opinion favorable en Ukraine. On est très loin.
Surtout depuis la séance d'humiliation dans le bureau ovale à la Maison-Blanche.
Exactement. Et de toutes les fake news qu'on a pu voir justement autour de cette popularité qui serait si basse que, je crois, Donald Trump parlait de 4% de taux de popularité, etc. Donc évidemment, tout ceci était faux. Donc il y a eu un effet, je crois, de ralliement autour du drapeau. Néanmoins, l'armée ukrainienne reste aujourd'hui en difficulté, et c'est pour ça que tout l'enjeu, je crois, qui va venir très bientôt, voire c'est déjà le cas, c'est de savoir si les Européens vont réussir à constituer une défense commune qui sera potentiellement, par la suite, projetée sur le terrain en Ukraine pour au moins sanctuariser et geler la zone, j'allais dire, libre en Ukraine actuellement.
Justement, Christine Dugoin-Clément, quel rôle pour les Européens ? Ils ne sont pas encore invités à la table des négociations, mais ils entendent bien faire pression, une pression collective, ont-ils dit lors de la dernière réunion à Londres. Et cette coalition de volontaires montée par la France, par la Grande-Bretagne, elle regroupe maintenant les pays européens, bien sûr, mais également le Canada, la Turquie, l'Australie, ça fait du monde. Est-ce que ça peut véritablement peser, même si à nouveau, tous ces gens-là ne sont pas à la table des négociations ?
Alors, il y a plusieurs choses. Le fait que les Européens ne soient pas conviés à la table des négociations, ça n'est ni plus ni moins que ce que le Kremlin pousse depuis le tout début de l'invasion, et voire même avant, quand il pouvait essayer de contourner, il le faisait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un soutien fort pour les Ukrainiens. Donc, on n'a pas envie d'eux, et ça permet aussi de dire que la Russie est un acteur majeur qui ne s'adresse qu'à un autre acteur majeur, comprendre Washington, et pas un petit peu on va dire, aux junior partners, hein, aux petits jeunes qui seraient négligeables, à savoir l'Union européenne. Et je pense qu'il ne faut pas s'y tromper. Les pays européens sont loin d'être des nains, surtout s'ils se pensent en tant que PAC. Alors la question, c'est à quel niveau et dans quelle mesure. On a, au niveau de la strate de l'Union européenne, la problématique de la gestion de la Hongrie, qui est extrêmement proche de la Russie et qui, par nature, suivra ce qui servira les intérêts géopolitiques du Kremlin. Et c'est pour ça que ce que l'on voit, c'est-à-dire les réunions qui se font à un niveau qui n'est pas uniquement européen, avec lequel on va réarrimer les Britanniques, qui sont une puissance nucléaire, certes pas pleinement souveraine, mais néanmoins, avec lequel on va parler de la Norvège, etc., on voit bien toute cette approche-là. Donc il y a une prise de conscience extrêmement forte. Maintenant, il va falloir rester solide, aussi bien dans les déclarations que dans les actions, à tous les niveaux que cela exige. Et ça veut dire aussi des investissements, ça veut dire aussi une vraie volonté pour dynamiser le système industriel, mais je pense qu'il ne faut pas s'y tromper. Hein. La Russie continue à avoir des attaques qui sont juste sous le seuil de déclenchement de la violence légale, donc de ce qu'on appelle clairement la guerre, tout en menaçant alors la co-belligérance au début, voire de ce qui serait considéré comme étant un acte de guerre. Je pense par exemple aux opérations informationnelles. Il n'est pas inintéressant de noter que le réseau, alors soit Pravda, soit Portal Combat, selon si vous prenez l'appellation américaine, ou Viginum, s'est encore renforcé et étendu après, l'échange du bureau Oval, qui fait quoi ? Eh bien, qui va simplement usurper l'identité graphique de médias. Vos collègues de la Croix en ont récemment fait les frais pour aller diffuser de la désinformation. On pourrait aussi parler de tout ce qui se passe au niveau des câbles sous-marins. Et à chaque fois que vous avez un manque de réaction quelque part et que l'on peut venir travailler en affaiblissant, la Russie va aller dans cette approche-là. Le fait d'avoir un cessez-le-feu bancal, sans garantie de sécurité, qui lui permet de continuer à faire tourner, elle, son CMI qu'elle a réactivé, lui permet de se resolidifier, de reprendre des forces et potentiellement de repousser une autre attaque, une autre offensive, qu'elle soit hybride, pour reprendre la terminologie, ou pas, et qui viserait d'autres pays, y compris les Européens, comme ça a pu être déclaré, sachant que, pour des raisons différentes, ni le Kremlin, ni le nouveau locataire de la Maison-Blanche n'ont intérêt à avoir une Union européenne qui soit solide et qui soit en autonomie de mouvement.
En attendant, Lucas Aubin, c'était l'idée du président américain, hein, ce déploiement d'une force européenne d'observation en cas de trêve ou de paix signée. Comment peut-il faire admettre cette force que refuse toujours Moscou avec force ?
Je crois qu'il y aura une confrontation, alors pas forcément militaire, mais en tout cas dans un premier temps diplomatique, pour essayer justement d'imposer cette force en disant...
Trump peut le faire, vous pensez ?
Trump, je ne sais pas, je dirais plutôt que ça appartient à ce stade à l'Union européenne, enfin aux Européens, plus largement avec les Britanniques.
Ils font le job, hein, comme nous l'a expliqué
Christine. Tout à fait, et de tenter ce bras de fer. Et c'est pour ça qu'on est dans un moment très, très charnière, parce qu'en fait, je crois qu'on réussit à déployer cette force à un moment donné, et donc, on sanctuarise les frontières ukrainiennes délimitées par la zone de conflit actuellement. Soit on n'y arrive pas, auquel cas on va avoir un désengagement américain et face à une Russie surarmée et une Union européenne en train de se reconstituer. Et donc, il va y avoir un risque à un moment donné de déséquilibre. Et ce déséquilibre, il pourrait jouer en faveur de fait de la Russie. C'est pour ça que le temps est compté. Alors, il ne faut pas non plus être alarmiste, hein, évidemment, mais... Il faut avoir en tête qu'on vit à un moment géopolitique, je crois, majeur. On est sur un shift que Vladimir Poutine appelait de ses voeux, vous l'avez rappelé. Il a remporté cette bataille, mais ça reste une bataille, évidemment.
En quelques mots, Christine Dugoin-Clément, l'obsession de Poutine d'obtenir la victoire, est-ce que ça ne va pas freiner ses pourparlers ? Ça va prendre quoi encore ? Des semaines, des mois ?
Il faut bien voir que ce qu'il propose comme étant des pourparlers, c'est tout simplement une capitulation. Mais il y a quelque chose derrière qui se joue, c'est la remise en jeu des règles internationales qui sont totalement percutées. Et il faut savoir vers quel ordre on veut avoir. Parce que si jamais on ne les respecte pas, ça pourra avoir d'autres conséquences avec d'autres acteurs, y compris sur le continent africain, qui pourraient avoir tout intérêt à casser ce genre de règles.
Et ça sera le mot de la fin. Merci Christine Dugoin-Clément, analyste en géopolitique, auteur de Géopolitique de l'ingérence russe, la stratégie du chaos aux éditions PUF. Merci également à Lucas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS. Je cite votre ouvrage Géopolitique de la Russie aux éditions La Découverte. Mes remerciements à Sigrid Azerwal qui m'a aidé à préparer cette émission, à la réalisation ce soir. Olivier Roux, merci.